Vous écoutez RTL.
8h38, nous avons rendez-vous dans quelques minutes avec Laurent Gérard, mais tout de suite, c'est la revue de presse avec Adeline François. Et dans la presse ce matin, Adeline, quelques mots du passé.
Ce pourrait bien être l'une des plus grandes révélations historiques de ces dernières années. La révélation au mieux d'un mensonge, au pire d'une imposture. Et c'est à lire ce matin dans Le Figaro, qui consacre une double page à ces chercheurs en histoire qui viennent de retrouver par hasard à Londres un manuscrit que l'on cherchait depuis 2 siècles. Le manuscrit du mémorial de Sainte-Hélène, les mémoires de Napoléon qu'il avait dicté à son secrétaire. Que révèle ce manuscrit ? Eh bien que la plupart des grandes citations attribuées à Napoléon ne sont sans doute jamais sorties de sa bouche. Il y a en effet d'énormes différences entre ce manuscrit qu'on vient de découvrir et la version imprimée du mémorial de Sainte-Hélène, lue par des générations de Français méditant les paroles glorieuses d'un Napoléon perché sur son rocher au milieu de l'Atlantique et commentant sa gloire passée, le regard perdu vers l'horizon. Quel roman pourtant que ma vie ne figure pas dans le manuscrit. Je suis le messie de la Révolution ne figure pas dans le manuscrit non plus. Pas plus que « j'ai voulu être le régénérateur de l'Europe ». Autant de citations qui avaient pourtant contribué à bâtir la légende napoléonienne. Son secrétaire a-t-il pris des libertés avec la vérité pour redorer le blason de Napoléon ? Les propos qui lui sont attribués sont-ils totalement inventés ? C'est la nouvelle énigme face à laquelle se trouvent maintenant les historiens. Enquête passionnante du Figaro ce matin, sous la plume de Jacques de Saint-Victor.
Quelques mots du passé ressurgissent aussi dans la campagne de l'entre-deux-tours. Hein.
Nous sommes en janvier 1995. Le Premier ministre d'alors, Édouard Balladur, cohabite avec un François Mitterrand affaibli et malade. Balladur est ultra populaire, 60% d'opinion favorable. Il s'apprête à se déclarer candidat pour la présidentielle qui a lieu 5 mois plus tard. Avant cela, il reçoit la presse pour la traditionnelle cérémonie des vœux à Matignon. Des applaudissements saluent le discours du Premier ministre jusqu'à ce que se produise un drôle de déclic. Balladur va dire quelques mots pour finir et ces quelques mots vont donner l'impression qu'il remercie les journalistes de l'avoir bien aidé dans son entreprise. Le lendemain même, la presse changera de ton vis-à-vis du Premier ministre candidat et se passionnera pour le rebond de Jacques Chirac. On connaît la suite. Voilà une bonne leçon du passé pour Nicolas Beytout dans le journal L'Opinion ce matin. Depuis dimanche dernier, écrit-il, les embûches et les maladresses se sont multipliées sur la route d'Emmanuel Macron et quelque chose a changé dans le ton jusque-là si favorable d'une partie de la presse.
Quelque chose a changé, vraiment.
Quelle liberté de parole pour les journalistes dans cette campagne, demande Le Monde en kiosque cet après-midi. Le Monde qui publie aussi sur son site ce matin ce texte signé par la Société des journalistes de 28 rédactions, dont celle de RTL, pour protester contre la décision du Front National de choisir les médias autorisés à suivre Marine Le Pen. Plusieurs médias ont en effet vu leurs représentants tenus à l'écart de toute information et de toute possibilité de suivi sur le terrain de la candidate du FN. Mediapart, Quotidien, mais aussi l'AFP, Radio France, RFI, France 24, Le Monde, Libération et Marianne ont été, à un moment ou à un autre, victimes de ces exclusives cette semaine. C'est, dit le texte, une entrave à la liberté de faire notre métier et de remplir notre devoir d'informer. Il n'y appartient pas à une formation politique, quelle qu'elle soit, de décider des médias habilités à exercer leur rôle démocratique dans notre société. Rôle démocratique face à la mise en scène des candidats, la guerre des images en une du Parisien ce matin qui montre les deux candidats se mettant en scène jusqu'à la caricature hier pour séduire les électeurs. Rôle démocratique face au vote blanc et aux abstentionnistes et au silence et au nini de Mélenchon. Le directeur de Libération, Johann Hufnagel, adresse ce matin une lettre à ses camarades de gauche qui ne voteront pas contre Le Pen. Il les appelle à faire la différence entre l'ennemi qui veut nous tuer et l'adversaire qui veut nous convaincre. Dans Libération également, la tribune de José Bové, « J'appelle sans aucune retenue à voter pour Emmanuel Macron », ce que fait aussi Jean d'Ormesson dans Le Figaro. Il faut aussi lire ce matin les Échos. Le Pen face à l'impasse de son projet européen. Le journal souligne que la candidate tente en ce moment d'adoucir sa position sur le retour au franc. Sauf que, sans cette mesure clé, tout son projet économique s'effondre. La Croix, de son côté, a décidé d'ouvrir ses colonnes jusqu'à vendredi prochain à des intellectuels catholiques, comme l'avocat Erwan Lemoredec, qui écrit ce matin que le FN vit sur une contradiction à l'Évangile et qui est fondatrice du parti, c'est le rejet de l'étranger. Et puis l'Humanité poursuit sa campagne contre l'extrême droite et appelle ce matin en une à un barrage social à Marine Le Pen le 1er mai. L'Humanité qui publie aussi ce matin un cahier spécial consacré à Antonio Gramsci à l'occasion du 80e anniversaire de sa mort. Quelques mots ressurgissent alors du passé. En février 1917, le philosophe écrivait dans un journal italien « Je suis en vie, je suis existant, c'est pourquoi je hais ceux qui ne résistent pas, c'est pourquoi je hais les indifférents. » Eh bien, c'est aussi ce que disait Napoléon. « Les hommes sont comme les chiffres, ils n'acquièrent de valeur que par leur position. » Mais l'a-t-il vraiment dit ?
C'était la revue de presse d'Anne-Line François sur RTL, comme chaque jour.